Et donc, pour continuer, je donne la parole à Jean-Pierre Mercier, ouvrier dans l'automobile.
€137 milliards. Ce sont les profits attendus pour 2021 pour les 40 plus grandes entreprises de ce pays. En pleine pandémie, en pleine crise économique, les capitalistes vont dégager cette année les profits les plus gigantesques qu'ils aient jamais faits. Pendant ce temps, 6 millions de travailleurs sont au chômage ou réduits à des emplois précaires. Pendant ce temps, même ceux qui travaillent, avec la hausse des prix, que ce soit celle de l'énergie, de l'essence ou des produits alimentaires, la date à laquelle le compte en banque passe dans le rouge arrive chaque mois un peu plus tôt. Bien des travailleurs ne font plus le plein à la station d'essence, mais se contentent de remplir le réservoir à moitié, au quart. Des mères de famille expliquent qu'elles ne chauffent plus que les pièces où dorment leurs enfants. Et un frigo ou une machine à laver qui tombe en panne devient une catastrophe à laquelle il ne sera pas possible de faire face. Voilà le principal sujet sur lequel devrait porter cette campagne électorale. L'enrichissement indécent de la classe capitaliste d'un côté, l'appauvrissement constant du monde du travail de l'autre. Les politiciens bourgeois qui sont candidats à cette élection le savent parfaitement. Et ils savent combien cette situation peut être porteuse de colère, de risque d'explosion sociale. C'est la raison pour laquelle ils mettent tant d'énergie à faire diversion et à tenter de centrer la campagne sur tout sauf sur le problème essentiel du monde du travail, celui de la feuille de paye, celui du montant des allocations et des pensions de retraite. Toute cette campagne électorale a commencé sous le signe de la diversion. C'est en fait depuis 2 ans maintenant que le Covid a été pour le gouvernement comme pour l'opposition une formidable opportunité pour faire diversion vis-à-vis des problèmes sociaux. Vous vous souvenez de Macron expliquant au début de la pandémie « Nous sommes en guerre ». Et pendant les guerres, comme chacun sait, on ne parle pas salaire, on ne parle pas conditions de travail, on ne parle pas augmentation des prix. On fait silence dans les rangs et on serre les dents. Pendant la Première Guerre mondiale, les patrons répondaient aux travailleurs qui relevaient la tête qu'il était honteux de revendiquer alors que les courageux soldats se faisaient trouer la peau dans les tranchées. Eh bien, rappelez-vous, en 2019, on nous a servi le même couplet en nous expliquant qu'il fallait se taire et penser au sacrifice du personnel soignant qui était au front tous les jours. Quelle mascarade ! Les gouvernements successifs ont détruit l'hôpital public, fermé des dizaines de milliers de lits. Les soignants ont été envoyés au front sans masque, sans matériel, avec des sacs poubelles en guise de surblouse. Et le gouvernement osait parler de respect pour les héros de l'hôpital. Les décennies passent, mais le cynisme des dirigeants politiques de la bourgeoisie ne change pas. Même dans les milieux scientifiques, il n'y a plus grand monde pour penser aujourd'hui que le pass vaccinal est une quelconque utilité. Mais le gouvernement tient bon. Il tient bon parce que depuis 2 ans, il profite de la crise pour prendre des mesures de plus en plus coercitives, pour imposer la discipline à la population. De couvre-feu en confinement, d'interdiction en obligation, allant jusqu'à priver de salaire et d'emploi les personnels soignants qui refusent de se faire vacciner. Et aujourd'hui, il pourrit la vie quotidienne de millions de petites gens, vaccinés ou pas, désigne à longueur de journée les non-vaccinés comme les responsables, les coupables de la saturation des services hospitaliers. Oui, toute la stratégie du gouvernement repose sur le fait de désigner des boucs émissaires pour éviter que le regard des travailleurs, et peut-être demain leur colère, se tourne vers les vrais responsables de la catastrophe sociale que nous vivons. L'organisation de la société, le capitalisme, ses maîtres et profiteurs, la grande bourgeoisie. Nous ne sommes pas de ceux qui prétendent que le virus aurait été fabriqué et diffusé intentionnellement dans le but de faire exploser les profits de Big Pharma. Mais la gestion de la crise a été pensée du début à la fin dans un seul et unique objectif, préserver les profits des riches et faire en sorte que, malgré la crise sanitaire, ces profits continuent d'augmenter. Et si l'épidémie a pu permettre d'habituer la population à marcher encore un peu plus au pas, c'est une aubaine pour ceux qui rêvent d'un monde où les travailleurs ne protestent jamais, marchent droit, sont fichés, surveillés, filmés, QR codés, comme on dit maintenant, où il faut montrer un papier officiel pour aller acheter du pain, montrer patte blanche pour monter dans un train, s'habituer, comme la loi l'y autorise depuis le 24 janvier, à ce que les flics puissent entrer dans un café et contrôler le pass sanitaire de tous les clients présents. Tout cela est pain béni pour les capitalistes. Et d'ailleurs, si l'on veut se convaincre que le Covid n'a en réalité pas grand-chose à voir dans tout cela, il faut se souvenir que ces restrictions aux libertés n'ont pas commencé en février-mars 2019, quand le Covid a fait son apparition, mais bien avant, en 2015, quand le gouvernement, qui était alors socialiste, s'était servi exactement de la même manière des attentats terroristes pour durcir les lois sur les libertés publiques. Il avait alors imposé plusieurs années d'état d'urgence et restreint le droit de manifester. En essayant d'encadrer toujours plus ces quelques libertés de protester et de s'organiser, gagnées au fil des années par le mouvement ouvrier, les gouvernements préparent l'avenir. Ils font leur travail de défenseurs des intérêts de la bourgeoisie, parce qu'ils savent que la dégradation continue des conditions de vie du monde du travail ne peut à terme que déboucher sur une explosion sociale. Et quand la colère du monde du travail débordera, quand les travailleurs décideront de renouer avec les luttes d'ensemble, quand des marées humaines ouvrières descendront dans les rues pour dire qu'elles n'acceptent plus leur sort, alors ce jour-là, ce ne sont pas les passes sanitaires, les QR codes, les caméras de surveillance et les drones de la police qui les arrêteront, tant il est vrai, comme l'écrivait le révolutionnaire Blanqui il y a 170 ans, que devant des prolétaires déterminés, obstacle, résistance, impossibilité, tout disparaîtra. Pendant la crise sanitaire, les capitalistes se sont plus enrichis en quelques mois que pendant les 10 dernières années. Les 5 premières fortunes françaises, les Arnault, Bettencourt, Pinault et les frères Weitheimer, ont vu leur fortune personnelle doubler depuis le début de la pandémie. Et ces 5 capitalistes, à eux seuls, possèdent aujourd'hui l'équivalent de la richesse des 40% des plus pauvres de la population en France. Et Oxfam, qui a publié ces chiffres et qui est une organisation ni communiste ni révolutionnaire, explique cette explosion des profits de manière très simple. Je cite « Si la fortune des milliardaires a autant augmenté durant la pandémie, c'est principalement en raison de l'argent public versé sans condition par les gouvernements et les banques centrales dont ils ont pu profiter grâce à une montée en flèche des cours des actions. » Ce n'est pas toute l'explication, mais c'est exact. Dès le début de la pandémie, la première préoccupation du gouvernement a été de faire en sorte que la crise ne coûte rien au patronat et surtout au grand patronat. D'un coup de baguette magique, les fameux critères de Maastricht, les règles d'or financières, les prétendues interdictions de creuser le déficit de l'État, tout cela s'est envolé. Et l'argent de l'État a coulé à flot pour enflouer les capitalistes qui, pour les plus gros d'entre eux, n'en avaient nul besoin. Par contre, quand des profs ou des infirmières demandent des embauches, quand des travailleurs luttent contre la réforme des retraites, quand les chômeurs se battent pour ne pas se faire dépouiller, c'est toujours la même rengaine. Les caisses de l'État sont vides. Il faut croire que le gouvernement a trouvé la martingale pour les remplir très vite, en quelques jours, dès que la pandémie a commencé, et qu'il a su trouver les moyens d'arroser le patronat de plusieurs centaines de milliards d'euros d'aides publiques. Et pendant toute cette période, où la bourgeoisie s'est gavée sans vergogne des cadeaux de l'État, elle a continué d'aggraver en même temps l'exploitation des travailleurs. Elle n'a jamais cessé de continuer à détruire des emplois, de mettre à la porte des intérimaires, de programmer des fermetures d'usines et de sites, d'augmenter dans les usines les cadences pour ceux qui restent, de programmer toujours plus de samedis travaillés et d'heures supplémentaires en fin de poste. C'est une véritable guerre que nous mènent les capitalistes. La crise économique démarrée depuis des décennies s'aggrave à l'échelle mondiale. La concurrence fait rage entre les groupes capitalistes et les marchés se rétrécissent de plus en plus. Il n'y a pas de place pour tout le monde et la seule perspective qui s'offre aux patrons, c'est de prendre des marchés à leurs concurrents. C'est, suivant l'expression du patron de PSA, Carlos Tavares, que je cite souvent, c'est d'aller manger dans la gamelle des autres. La crise économique intensifie la guerre économique entre les groupes capitalistes. Le rétrécissement des marchés oblige chacun à essayer d'écraser l'autre pour prendre sa place. Dans une période de sécheresse, les chacals s'affrontent d'autant plus durement que les proies se font plus rares. Dans le monde des patrons, le seul moyen de prendre des parts de marché, c'est d'être, comme ils disent, plus compétitif. Mais ça, c'est du vocabulaire de patron. Cette concurrence, les patrons la font payer de plus en plus cher aux travailleurs. Être plus compétitif, ça veut dire produire moins cher. Et produire moins cher, ça veut dire exploiter davantage les travailleurs, diminuer toujours plus la masse salariale en continuant d'augmenter la production. Eux, ils appellent ça gagner des points de productivité. Pour nous, les travailleurs, ça veut dire plus de camarades jetés au chômage, plus de vitesse sur les chaînes, plus d'épuisement, plus de tendinite, plus de dos cassés, plus d'accidents du travail, plus d'ouvriers qui meurent le mois qui suit leur retraite, voire au travail. Comme c'est arrivé hier matin à l'usine de PSA Rennes, un ouvrier de seulement 54 ans, décédé d'une crise cardiaque à la prise de son équipe. Quand on dit qu'on crève au boulot, ce n'est pas que des mots. C'est ça le capitalisme. Alors la question n'est pas de savoir si ces gens-là, les capitalistes, sont bons ou mauvais. Elle est de comprendre les lois qui gouvernent l'économie capitaliste. La survie d'un capitaliste sur le marché international dépend de sa capacité à crever ses ouvriers au travail. C'est comme ça, c'est pas nouveau. Ça existe depuis le début du capitalisme et c'est précisément pour cela que des générations de militants ouvriers communistes se sont battus et que nous nous battons encore contre un système qui ne peut être ni amélioré, ni humanisé, ni réformé, mais qui ne cessera de nuire que lorsqu'il aura été abattu, parce que l'aggravation permanente de l'exploitation fait partie de l'ADN du capitalisme, parce que le capitalisme, comme l'écrivait Marx, est né en suant le sang et la boue par tous les pores de sa peau, et que tant qu'il règnera sur le monde, il en sera toujours ainsi. C'est pour ça que nous sommes fiers de militer pour son renversement, c'est pour ça que nous sommes fiers d'être communistes et révolutionnaires. C'est une des raisons pour lesquelles l'enjeu de cette campagne présidentielle n'est en aucun cas de savoir quel politicien remportera le gros lot en avril et sera appelé pour les 5 ans à venir à gérer les intérêts de la bourgeoisie. Quel que soit ce politicien ou cette politicienne, qu'il soit de droite, de gauche, d'extrême droite ou le tout à la fois comme Macron, il sera là. Il sera là pour mettre en œuvre la feuille de route que le MEDEF posera sur son bureau au lendemain du second tour. Et c'est la raison pour laquelle nous, à Lutte ouvrière, avec la candidature de notre camarade Nathalie Arthaud, nous nous présentons pour faire entendre une autre voix, celui du camp des travailleurs, pour le conforter et le préparer politiquement aux combats qui nous attendent. Être des militants du camp des travailleurs, ça veut dire bien sûr dénoncer ainsi sans relâche le fait que, fondamentalement, ce sont les capitalistes qui dirigent la société et que tous les gouvernements, tous les États sont leurs serviteurs. Mais c'est aussi dénoncer les faux amis des travailleurs, ceux qui prétendent parler en leur nom, mais qui, derrière leur masque de prétendus avocats de la classe ouvrière, sont eux aussi des défenseurs de l'ordre capitaliste. Face à une situation d'explosion sociale, la bourgeoisie tient toujours prête l'arme de la répression brutale, de l'écrasement armé des travailleurs. Mais avant d'en arriver là, et tout particulièrement dans les pays riches, elle a d'autres cordes à son arc. Elle a su, au fil des années, intégrer, apprivoiser, domestiquer les organisations nées des combats du mouvement ouvrier pour en faire des relais de sa politique. Ce sont d'une part les partis politiques réformistes, ceux issus de la social-démocratie, comme le Parti socialiste en France, puis des partis venus du stalinisme, comme le Parti communiste français. Ces partis, et en particulier le PCF, utilisent un langage qui peut parler aux travailleurs. Mais ils ont prouvé, notamment à chaque fois qu'ils ont été au gouvernement, qu'une fois au pouvoir, ils servent le grand patronat comme les autres. Mais il y a aussi les syndicats, qui peuvent avoir un rôle encore plus déterminant parce que ce sont, bien plus que les partis politiques dans la période actuelle, des organisations de masse. Dans un pays comme la France, il existe de nombreuses organisations syndicales qui toutes ont leur langage, leur stratégie propre. Certaines, je n'ai pas besoin de les citer, sont ouvertement des défenseurs de la collaboration de classe la plus éhontée, prêtes à signer n'importe quel accord pourri contre un peu de reconnaissance du patronat. D'autres ont un langage plus lutte de classe, plus combatif, et attirent d'ailleurs de ce fait les militants les plus sincères, ceux qui ont le plus envie d'en découdre avec le patronat. Mais ce qu'il y a de commun entre toutes les confédérations syndicales, c'est que leurs dirigeants, leur appareil, respectent fondamentalement la propriété bourgeoise, l'ordre bourgeois, le système capitaliste. Non seulement elles ont abandonné depuis des lustres l'idée de renverser le capitalisme, mais elles ont aussi, à bien des reprises, joué le rôle de pompiers pour éteindre les incendies sociaux, en arrêtant les grèves, en empêchant les luttes ouvrières d'aller jusqu'au bout de leurs possibilités, en présentant comme des victoires des compromissions négociées avec la bourgeoisie, tant les périodes où celle-ci était en danger. Ce n'est pas un hasard si toute la législation sociale qui subsiste encore dans ce pays a été élaborée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand la bourgeoisie tremblait de peur à l'idée de voir la fin du conflit donner lieu à une nouvelle vague révolutionnaire. Cette législation sociale a été créée par une alliance entre l'homme d'extrême droite, De Gaulle, le PCF et les syndicats, qui ont accepté de jouer le jeu et qui ont, à l'époque, combattu les grèves en prétendant que tout allait venir d'en haut sans qu'il y ait besoin de lutte. La bourgeoisie, qui craignait pour son pouvoir, a lâché un certain nombre de concessions, et partis réformistes et syndicats ont joué le rôle de courroie de transmission dans la classe ouvrière pour dire qu'il faudrait s'en contenter, d'autant plus qu'ils y trouvaient leur compte dans la multitude de postes que le patronat a créés pour eux à l'époque dans les conseils d'administration des entreprises nationalisées jusqu'à la gestion paritaire de la sécurité sociale. Se revendiquer du camp des travailleurs, c'est aussi rappeler ces vérités qui n'ont d'ailleurs rien de nouveau. Avant même la Seconde Guerre mondiale, Léon Trotsky résumait déjà le rôle des directions syndicales en écrivant, je cite, « Dans les périodes de lutte de classe aiguës, les appareils dirigeants des syndicats s'efforcent de se rendre maîtres du mouvement des masses pour le neutraliser. » Ça ne veut pas dire que les révolutionnaires ne doivent pas être des militants syndicaux dans les syndicats tels qu'ils sont aujourd'hui. Bien au contraire, ils doivent en être les éléments les plus actifs, les plus décidés, les plus militants. Les communistes révolutionnaires doivent être là où sont les travailleurs, militer à leur côté et chercher à organiser ceux qui ne le sont pas. C'est la base même du travail d'un militant communiste. Mais ils doivent aussi savoir que militer dans un syndicat est un combat, parce que les appareils syndicaux n'ont aucune envie de tolérer dans leurs organisations des militants qui dénoncent leur rôle et veulent que la lutte des classes soit organisée par les travailleurs eux-mêmes. Oui, dans cette société où tout est fait pour nous faire taire, pour nous soumettre à la hiérarchie sociale, les travailleurs doivent être chez eux, dans leur organisation syndicale. La démocratie syndicale n'est pas seulement un impératif moral, c'est la condition même de l'efficacité dans le combat permanent contre le grand patronat. Et c'est là, fondamentalement, toute la différence entre les appareils syndicaux et les communistes révolutionnaires. Les appareils syndicaux ne font pas confiance à la classe ouvrière, voire, à un certain niveau, ils la craignent. Ils se posent en avocats. Ils pensent que les travailleurs ont besoin d'être dirigés, alors que nous, tout au contraire, nous pensons que ce sont les travailleurs qui doivent diriger leur syndicat, diriger leur lutte, diriger leur grève, diriger toute la société. Et même dans la situation actuelle, où la combativité ouvrière dans un pays comme la France n'est pas au rendez-vous, notre confiance reste inébranlable dans la capacité de la classe ouvrière à se révolter et à prendre son sort en main. Dans ce monde écrasé par la crise sanitaire et la crise économique, nous voyons des combats menés par la classe ouvrière parfois à l'autre bout de la planète, du Chili en Algérie, de la Chine au Kazakhstan, de l'Afrique du Sud à la Guadeloupe. Qui connaissait il y a 2 mois le Kazakhstan ? Qui savait que dans ce pays d'Asie centrale existe une classe ouvrière puissante et combative et qu'il s'y trouve dans la ville de Kazakhmys, une usine ArcelorMittal qui compte 37 000 ouvriers payés 300 euros par mois. Depuis le mois d'août dernier, des dizaines de grèves pour les salaires se sont déroulées dans les usines de ce pays du monde, dont le sous-sol regorge tellement de ressources minières et énergétiques que la classe ouvrière de ce pays a la force, quand elle décide d'entrer en lutte, de bloquer l'approvisionnement en gaz et en pétrole de toute l'Europe. Les travailleurs du Kazakhstan sont entrés en lutte depuis 6 mois parce qu'ils font face aux mêmes problèmes que les travailleurs du monde entier. Les bas salaires, le chômage, la vie chère. Et dans combien d'autres pays du monde, en Chine, en Inde, au Vietnam, en Afrique du Sud, au Mexique, au Brésil, en Indonésie, les travailleurs entreront demain en lutte à leur tour et montreront à la face du monde que la classe ouvrière, le prolétariat, est toujours la classe sociale la plus nombreuse et la plus essentielle, celle qui fait tout tourner, celle sans laquelle le capitalisme ne pourrait pas fonctionner. Pour que ces luttes aillent le plus loin possible, elles auront besoin de l'énergie extraordinaire que recèle la classe ouvrière. Elles auront besoin d'idées révolutionnaires, pour être capables de déjouer les pièges et les trahisons des faux amis de la classe ouvrière. Ces idées, elles seront distillées par les militants du Parti communiste révolutionnaire que nous voulons, que nous devons plus que jamais reconstruire, et pas seulement en France, mais dans le monde entier. Car face à tous ceux qui flattent les préjugés nationalistes les plus puants, de ceux dans cette campagne qui prônent le repli national et le protectionnisme, nous affirmons fièrement que ces travailleurs du monde entier sont nos frères et nos sœurs de combat, que ce sera très probablement eux, demain, qui nous montreront la voie et qui nous réapprendront la lutte de classe. Alors pendant toute cette campagne, comme pendant toute notre vie militante, nous ne cesserons de le proclamer haut et fort, contre les patriotes, tous les protectionnistes de droite comme de gauche, tous les défenseurs du repli national, du modèle français, des frontières et des barbelés, travailleurs de tous les pays, unissons-nous. Vive le camp des travailleurs, vive le communisme.
Et maintenant, notre camarade Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Oui, le monde devient de plus en plus fou. Jean-Pierre a parlé des 137 milliards de profits pour les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris. À l'échelle planétaire, les actionnaires des grandes sociétés cotées attendent un montant record de dividendes de 1 500 milliards de dollars pour l'année 2021. Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX, est un homme qui vaut 300 milliards. Jeff Bezos lui court après avec plus de 200 milliards, ce qui lui a quand même permis de s'offrir un yacht de 127 mètres de long à 400 millions. Yacht tellement grand qu'il ne peut pas sortir du chantier naval de Rotterdam, que si on démonte un pan historique. En France, le patron du groupe de luxe LVMH, Bernard Arnault, a lui encaissé 1,4 milliard de dividendes pour le compte de l'année 2021, ce qui fait 3,8 millions par jour ou encore 2 SMIC à la minute. Alors je m'y perds, mais il faut m'excuser parce que les milliards s'empilent vraiment à un pôle, au point que la minorité richissime ne sait même plus quoi en faire elle-même. On savait déjà qu'il était possible de spéculer sur tout et sur n'importe quoi. Eh bien, la nouvelle mode en la matière, c'est un marché virtuel où les grandes fortunes placent des millions dans l'achat de terrains, de palaces, d'appartements qui n'existent pas. Avec leur smartphone, ils peuvent y promener leur avatar avec un sac Vuitton à la main, sac virtuel, hein, bien sûr, mais payé au prix d'un véritable sac, c'est-à-dire à prix d'or. Alors on pourrait en rire, mais quand on sait que la moitié de la population mondiale survit avec moins de 5 euros par jour, quand on sait qu'il y a encore au minimum 160 millions d'enfants au travail et qu'une personne meurt toutes les 10 secondes de malnutrition, eh bien ce gâchis stupide de richesse est indécent et il doit nous mettre en rage. Les dirigeants politiques et patronaux disent prendre au sérieux la crise climatique et agir contre le réchauffement de la planète. Ils nous parlent du matin au soir développement durable. Mais regardez les marchés qui se développent le plus. Le luxe, la drogue, l'armement, voilà le développement durable à la sauce capitaliste. L'humanité n'a jamais disposé d'autant de connaissances, de savoir et de culture. Elle n'a jamais autant échangé. Et pourtant, les courants les plus rétrogrades, les plus intolérants, les plus nationalistes, racistes, sexistes, mystiques se développent. Et quand des dizaines de millions de personnes, forcées d'émigrer, sont parquées derrière des barbelés et traitées en criminels, quelques milliardaires s'offrent une expédition touristique dans l'espace. Il n'y a pas de monde plus fou. Et la folie dans laquelle nous sommes tous entraînés, c'est la folie d'un système où tout peut s'acheter et se vendre, où tout entre en concurrence, où tout peut et doit devenir rentable, source de profit. La nature, comme le corps humain, exploité jusqu'à ses derniers jours dans des EHPAD, notamment transformés en pompes à fric pour certains. Nous sommes entraînés dans une fuite en avant, dans tous les domaines, les pays pauvres comme les pays riches. Mais qui a intérêt à cette société ? La grande bourgeoisie. Le grand patronat, les grands actionnaires, pas les travailleurs, pas ceux qui sont exploités et doivent se battre pour tout, pour trouver un emploi, pour trouver un logement, pour trouver une place en crèche, ou même pour pouvoir s'asseoir dans le métro ou le RER. Le monde du travail, dans son entier, a intérêt à combattre cette organisation sociale capitaliste, et pour cela, il a besoin d'une politique, et donc d'un parti pour la défendre, pour la mettre en avant au jour le jour, pour en convaincre notre classe. Dans cette campagne présidentielle, il faut un parti qui affirme que la misère et ses ravages, le chômage, les bas salaires, mais aussi la spéculation, la pollution et l'impérialisme ne sont insolubles que parce que les travailleurs ne prennent pas eux-mêmes les choses en main. Un parti qui affirme que les travailleurs au pouvoir feraient mille fois mieux que tous ces politiciens qui se prosternent devant la propriété capitaliste et les lois du marché. Prenez la crise sanitaire. Je suis convaincue que les travailleurs au pouvoir l'auraient mieux gérée, parce qu'ils l'auraient gérée du point de vue des intérêts des travailleurs et des classes populaires, pas du point de vue du grand patronat et des actionnaires. D'abord, parce qu'avec les travailleurs au pouvoir, les hôpitaux publics ne seraient pas à genoux. Toute idée de profit serait bannie de la santé, au contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'hôpital public est artificiellement endetté auprès des banques. Il est géré comme une entreprise et il se décompose sous l'effet des coupes budgétaires, du manque de moyens, d'un personnel insuffisant et épuisé. Et le privé en profite, bien sûr, en se jetant sur les soins les plus rentables. C'est ainsi que les chaînes de cliniques privées, cotées en bourse, se multiplient, spécialisées dans les opérations lucratives, c'est-à-dire très bien remboursées par la sécurité sociale, quand les malades les moins solvables s'entassent à l'hôpital public. Eh bien, avec les travailleurs au pouvoir, tous les moyens financiers et humains iraient à l'hôpital public. Ils iraient à la formation du personnel nécessaire et puis ils iraient à son recrutement. Avec les travailleurs au pouvoir, le personnel hospitalier, l'agent de service, l'ouvrier, l'aide-soignante n'auraient pas à se battre pour être reconnus par la société. Et on ne demanderait pas aux malades qui vont aux urgences de payer 19 euros. Avec les travailleurs au pouvoir, c'est une évidence qu'il y aurait eu des ouvertures de lits. Il y aurait eu la création d'unités spécialisées dans le suivi des malades. Il y aurait eu la mise sur pied d'équipes de ville pour aller vers la population la plus éloignée des soins ou vers celle qui vit dans un désert médical. Et puis, plus largement, au lieu de se soumettre à la propriété capitaliste, les travailleurs au pouvoir auraient démoli le monopole des trusts pharmaceutiques. Ils auraient supprimé le secret commercial et la sacro-sainte propriété intellectuelle des laboratoires. Ils auraient brisé les brevets et ils auraient forcé les laboratoires à partager leurs découvertes pour que les vaccins soient fabriqués dans toutes les entreprises qui en sont capables sans chercher à faire du profit. Avec les travailleurs au pouvoir, tous les secteurs de la vie sociale auraient été organisés pour mieux protéger la population contre le virus. Toutes les décisions auraient été prises en fonction des besoins de la population, sans être pollués par les calculs économiques d'une minorité d'exploiteurs. Au lieu qu'il y ait moins de bus et de trains et que l'on continue à s'y entasser, il y en aurait eu plus. Au lieu que les élèves soient 30 ou 35 dans une même salle de classe, le travail aurait été organisé en petits groupes. Pour cela, un pouvoir ouvrier aurait pu s'appuyer sur l'initiative de la population pour trouver des locaux, pour encadrer les jeunes. Il suffit de voir quel trésor de dévouement nombre de personnes ont déployé lors du premier confinement pour comprendre que la société est capable de faire beaucoup mieux. Tout cela n'est pas de la politique fiction. Ce n'est pas de la politique fiction parce que nous avons tous les moyens matériels, humains et financiers à portée de main pour le réaliser. Il est possible d'organiser la société pour qu'elle réponde aux besoins de tous, à condition, encore une fois, qu'elle ne soit pas entravée par la propriété privée et par le droit de faire des profits avec la vie humaine. Mettre réellement au service de l'ensemble de la société tous les moyens dont elle dispose en expropriant la classe capitaliste doit être notre perspective politique. Que les travailleurs prennent le pouvoir doit être notre perspective. Le communisme doit être notre perspective. Cette perspective est loin de ce que les travailleurs se sentent capables de faire. Il est déjà difficile de se défendre, c'est vrai. Mais il en est ainsi de toutes les sociétés basées sur l'exploitation. Les opprimés passent l'essentiel de leur vie à subir, sans trouver le moyen de s'organiser et de résister. Ça a été le cas pour les peuples mis en esclavage ou colonisés des décennies durant, des siècles même. Et cela n'a pas empêché les révoltes ni les révolutions. Même si aujourd'hui, l'écrasante majorité des travailleurs reste l'arme au pied, ils représentent bien le camp révolutionnaire de demain. Parce que les travailleurs sont tous les jours confrontés à la lutte de classe, à l'exploitation, à la course, à la compétitivité. Cela donne régulièrement des explosions de colère, ponctuelles, localisées. Et c'est lorsqu'elles font tache d'huile et que la lutte se généralise que le camp des travailleurs est capable de peser sur la vie politique et de contester la dictature de la grande bourgeoisie. Eh bien, il faut un parti qui incarne ce combat et ses perspectives révolutionnaires. Un parti qui parte des besoins et des intérêts des travailleurs et qui les traduise en politique et en programme. Prenez le chômage. Les politiciens de droite et de gauche se sont succédés durant des décennies. Ils ont tous laissé le chômage et la précarité de masse s'installer et s'aggraver. Et regardez comment Macron est content de lui, parce que le nombre de chômeurs recensés par Pôle emploi en catégorie A a baissé. Mais comment se réjouir d'un chiffre officiel de 3,3 millions de personnes sans aucun emploi et de 5 700 000 si on inclut les personnes qui vivotent avec quelques heures de travail ? Loin de ce mépris social, notre objectif doit être zéro chômeur, parce que pouvoir gagner sa vie est une nécessité pour tous. Zéro chômeur, oui, parce qu'écarter de toute activité productive des millions de femmes et d'hommes qui n'aspirent qu'à se rendre utiles est un immense gâchis pour la société. Et zéro chômeur, eh bien c'est possible, et c'est même quelque chose de simple. Il suffit de se répartir le travail existant entre tous, sans perte de salaire, bien sûr. Mais si nous avions collectivement le pouvoir de diriger les entreprises, eh bien on commencerait par cela. Parce que du travail, nous sommes nombreux à en avoir par-dessus la tête. Nous nous retrouvons obligés de faire des heures supplémentaires, de travailler des samedis, des jours fériés. Nous faisons le travail de deux, parce que telle ou telle personne partie à la retraite n'a jamais été remplacée, parce que l'intérimaire ou le stagiaire qui faisait le boulot est parti. Cette charge de travail-là, eh bien, il faut la répartir entre tous en imposant des embauches. Et imaginez que l'on demande au personnel des hôpitaux, des EHPAD, de l'éducation, des transports publics d'établir une liste d'embauches dont ils auraient besoin. On arriverait à des centaines de milliers d'emplois utiles et indispensables à créer tout de suite, immédiatement. Il faut répartir le travail entre tous et arracher la baisse du temps de travail de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun chômeur. Il faut travailler moins et travailler tous. Et c'est une question de choix de société. On ne doit pas accepter que l'argent soit aspiré à un pôle et monopolisé par quelques milliers de grands bourgeois. Il faut se battre pour qu'il serve au monde du travail et à cet objectif élémentaire de permettre à tous d'avoir un emploi et de pouvoir gagner sa vie. Il faut faire passer les emplois avant les profits, avant les cours boursiers, avant les fortunes de quelques-uns. Un autre objectif des luttes de demain, bien sûr, ce sera l'augmentation générale et massive des salaires, des allocations et des pensions de retraite. C'est une revendication susceptible d'unifier dans un combat commun toutes les catégories de travailleurs que le patronat dresse les unes contre les autres. Car il ne faut compter ni sur Macron, ni sur les candidats qui prétendent le remplacer pour imposer quoi que ce soit au grand patronat. Pour ça, il va falloir se battre. La plupart du temps, les politiciens proposent d'augmenter les salaires en baissant les cotisations sociales. C'est-à-dire, ils proposent que l'on se paye nos propres augmentations de salaire parce que les cotisations sociales ne sont rien d'autre que du salaire différé. Eh bien, merci, les patrons y avaient déjà pensé. Et puis, toutes les autres mesures sont du même acabit. Le gouvernement a bloqué à 4% l'augmentation du prix de l'électricité après l'avoir laissé flamber. Mais ce qu'il présente comme un cadeau coûte quand même 8 milliards à l'État et demain, nous le paierons de notre poche. Et puis, il y a la politique de l'aumône. Prime d'activité, APL. L'État prétend venir en aide aux plus bas salaires à coup de primes, sur lesquelles il rogne d'ailleurs continuellement, mais sans lesquelles des millions d'entre nous ne pourraient en effet pas se loger ni se nourrir. La dernière invention a été le chèque énergie de 100 euros à tous ceux qui vivent avec moins de 2000 euros par mois. Et demain, l'État va aussi nous aider à acheter notre lait, notre baguette. Mais quand on travaille ou quand on a travaillé toute sa vie, on ne demande pas la charité pour faire son plein d'essence, pour se chauffer ou pour se loger. On veut pouvoir vivre de son salaire ou de sa pension de retraite. Alors il faut l'augmentation générale des salaires et des pensions de retraite. Et ce ne sont pas des miettes qu'il faut, mais des augmentations de 200, 300, 400, 500 euros par mois. Et pour ne pas être attrapé par l'inflation, il faudra l'imposer. Il faudra imposer l'indexation des salaires sur les prix. Et il faut porter le SMIC à 2000 euros net, avec son chèque énergie. Castex a avoué qu'on ne s'en sortait pas à moins de 2000 euros. Eh bien oui, c'est vrai, 2000 euros c'est le minimum pour ne pas vivre dans l'angoisse permanente de tomber malade, de se retrouver sans voiture ou de ne pas avoir l'argent pour aider à payer le permis à un de ses enfants. C'est le minimum pour espérer partir un peu en vacances. Alors 2000 euros, eh bien ce doit être un minimum pour les salaires, mais aussi pour les pensions et pour les allocations dont vivent les travailleurs à la retraite ou en invalidité. Alors bien sûr, c'est au-dessus du SMIC actuel. Bien au-dessus, même. Parce que le SMIC actuel, il est à 1 270 euros net. Et je sais que pour beaucoup de salariés, parler de 2 000 euros, cela, c'est du domaine du rêve, parce que le patronat ne l'accordera jamais. Mais la plupart du temps, le patronat n'est même pas prêt à accorder 50, 40, 30 ou 20 euros d'augmentation. Même pour cela, il faut débrayer, il faut menacer de faire grève pour les arracher. Du point de vue du grand patronat, et c'est la même chose avec l'État patron, aucune revendication salariale n'est considérée comme raisonnable. Et c'était pareil en mai 68. Même demander 10% d'augmentation de salaire était jugé irréaliste et dangereux même pour l'économie. Une grève générale après, et quelques millions de manifestants plus tard, eh bien le SMIC était augmenté de 35%. Que l'on revendique 50, 100 ou 400 euros d'augmentation, il faut se battre. Alors il n'y a aucune raison de ne pas revendiquer ce qui nous est nécessaire pour vivre. Et nous n'avons pas à nous excuser. Nous faisons tourner la société. Nous sommes essentiels. Il n'y a aucune raison de nous faire petits. Si nous raisonnons en fonction de ce que le patronat est prêt à nous laisser pour vivre, eh bien nous resterons les éternels sacrifiés. Alors il faut raisonner à l'inverse, nous devons être fiers de nos revendications parce que nous devons être fiers de ce que nous sommes. La société doit d'abord répondre à nos besoins de travailleurs parce qu'elle ne tient que par nous. Alors, battons-nous pour arracher ce qu'il nous faut, quoi qu'il en coûte au grand patronat. Et s'il faut changer toute la société pour l'imposer, eh bien nous la changerons. Pour rejeter les revendications ouvrières, les perroquets patronaux mettent toujours en avant la PME ou la petite entreprise en difficulté, qui serait ruinée si elle devait, par exemple, augmenter les salaires ou embaucher. Ça leur ferait trop de charges, comme ils disent. En fait, c'est toujours une façon d'occulter la responsabilité des grands groupes dans les bas salaires. Mais quand vous travaillez chez Carrefour, c'est pas la petite entreprise du coin de la rue. Vous avez 15 ans d'ancienneté, eh bien vous touchez 1300 euros net. Avec 30 ans d'ancienneté, vous êtes à 1400 euros net. Vous êtes ouvrier à Michelin, vous êtes à 1500 euros net en travaillant en équipe, et ainsi de suite. Et combien d'entreprises de gardiennage, de nettoyage et de sous-traitance diverses qui travaillent pour les plus gros payent leurs salariés à coups de lance-pierre? Les petites entreprises sont l'alibi pour nous faire taire. D'ailleurs, prenez 1968 et cette fameuse augmentation du SMIC de 35%. Y a-t-il eu la ruine du petit commerce annoncé? Eh bien non! Et aujourd'hui, je suis convaincue que l'augmentation du pouvoir d'achat réjouirait même un certain nombre de coiffeurs, de bouchers, de boulangers ou de restaurateurs qui vivent de la clientèle populaire et qui la voient se priver. Alors il faut rendre public les comptes des grands groupes. Et il faut rendre public les contrats qui les lient aux autres entreprises. Et on verrait les marges royales qu'ils se font et on saurait exactement où aller chercher l'argent. Si un petit patron ne peut pas payer, il y en a d'autres au-dessus de lui. Eh bien, que le donneur d'ordre paye, que le banquier paye, que le fournisseur, le bailleur paye. La véritable démocratie, le pouvoir du peuple, ce serait cela. Que ceux qui font tourner les entreprises sachent exactement ce qu'il en est des fruits de leur labeur. Alors oui, il faut imposer un contrôle sur les comptabilités des grands groupes. Et nul besoin de créer des comités de contrôle ou d'enquête. Avec les comptables et les administratifs, les travailleurs sont les mieux placés pour exercer ce contrôle, car ils connaissent mieux que quiconque la réalité du travail. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut que la parole se libère. C'est d'une hypocrisie sans nom parce que dans les entreprises, les salariés n'ont le droit de rien dire. Prenez le scandale des EHPAD. Combien de salariés ont été menacés, mis à pied, licenciés pour avoir dénoncé les dysfonctionnements et la maltraitance? Cela fait des années qu'ils prennent des risques et témoignent sous anonymat. Prenez le business qu'il y a autour des vaccins anti-Covid. Les dirigeants européens qui ont négocié l'achat des vaccins avec les laboratoires veulent que les contrats restent secrets, au nom, encore et toujours, du secret commercial. Tout cela, en fait, c'est pour cacher les marges des labos qui permettent à la triade constituée par Pfizer, BioNTech et Moderna d'empocher 1 000 dollars toutes les secondes avec ces vaccins. Le secret, l'omerta que le grand patronat impose dans les entreprises lui permet de mentir, de cacher ses méfaits et ses crimes. Enlevons-lui cette arme. Oui, libérons la parole des salariés, des comptables, des commerciaux, et cela passe par la levée du secret professionnel, la levée du secret commercial et l'arrêt de toute poursuite pour diffamation dès que l'on parle de harcèlement ou de salaire de misère. Alors, vous le voyez, le programme que je défends n'a rien à voir avec les programmes électoraux que les autres candidats nous servent. Vous savez, ces catalogues électoraux où chacun est censé aller à la page qui lui va bien. Page 24, vous trouverez à la rubrique étudiants l'assurance d'un revenu minimum. Page 25, la garantie que plus aucune personne handicapée ne se retrouvera en dessous du seuil de pauvreté. Et page 26, l'engagement de faire reculer les violences faites aux femmes. Je tiens d'abord à dire que ces promesses ne coûtent rien à la plupart des candidats qui les brandissent, parce que pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas plus de chance que moi d'être élus. Quant à celui qui s'installera dans le fauteuil présidentiel, il trouvera toujours des raisons pour rogner ou pour abandonner les engagements pris vis-à-vis des classes populaires. Parce qu'une fois au pouvoir, il fera ce que le grand patronat lui permettra de faire. Et c'est ce qui s'est produit avec Mitterrand, qui prônait quand même la rupture avec le capitalisme. C'est ce qui s'est produit avec Jospin, qui a plus privatisé que les gouvernements de droite. Et rebelote avec Hollande, qui avait fait de la finance son ennemi de campagne, mais l'a servi tout au long de son quinquennat. Et on peut multiplier les exemples. En 1936, le socialiste Léon Blum avait expliqué le premier qu'il s'était heurté au mur de l'argent et des 200 familles. Qu'est-ce qui ferait que demain les choses se passent différemment? Avec un Mélenchon, par exemple. Je parle de lui parce que c'est lui qui a fait le meilleur lifting, réussissant même à faire oublier qu'il a été ministre sous Jospin. Mais comme Hidalgo, comme Roussel et Taubira, il véhicule une fois de plus des illusions dans le monde du travail, et particulièrement dans le monde syndical. Vu la droitisation de toute la vie politique, les diatribes de Mélenchon sur le partage de la richesse, la taxation des profiteurs de crise, ou alors contre les violences policières, ou pour la 6e République, le font apparaître de loin comme le plus radical. Plus radical, c'est vrai, mais quand même très responsable vis-à-vis de la bourgeoisie et de tout son système. car où mène son partage des richesses ? À raboter un peu les plus grandes fortunes pour redistribuer des miettes aux travailleurs. Oui, des miettes, parce que Mélenchon promet par exemple un SMIC à 1400 euros net, ce qui est loin, très loin de ce qu'il faut pour sortir de la galère. Rien que ce chiffre montre que Mélenchon ne raisonne pas à partir des besoins des travailleurs. Mélenchon veut être le gérant loyal des affaires de la bourgeoisie. Il aime d'ailleurs discourir sur le rayonnement de la France, sur son universalisme et sa présence sur les 5 continents. Il se félicite à chaque vente d'avions Rafale et s'indigne, comme tous les politiciens bien nationalistes, que la France soit à la remorque des États-Unis. Autrement dit, il regrette que la France soit un impérialisme de seconde zone et non pas le chef des brigands. Son projet, ce n'est pas de renverser la grande bourgeoisie, c'est de travailler avec elle, main dans la main. Et il l'a montré lors de son dernier débat télévisé, où il a vendu sa politique à Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. Pendant 20 minutes, Mélenchon s'est évertué à vanter les bienfaits de ses mesures pour le grand patronat. Certes, les capitalistes devront céder une petite partie de leurs profits exceptionnels à l'État, mais ils ne le regretteront pas, parce que ça leur reviendra au centuple. Oui, parce qu'avec lui, les carnets de commandes seront bien remplis. Et puis, avec tous les investissements que l'État fera dans la transition écologique, eh bien, il y aura des profits juteux. Autant dire que Mélenchon et le patron du MEDEF se sont quittés bons amis. En fait, Mélenchon appelle au compromis avec la grande bourgeoisie. Mais les travailleurs sont bien placés pour savoir que toute recherche de compromis conduit toujours à négocier le poids et la longueur de nos chaînes. Il n'y a pas à chercher de juste milieu, parce que la bourgeoisie n'exploite pas à moitié, elle ne mène pas sa guerre économique à moitié. Non, il n'y a pas de juste milieu. Le capitalisme, ou bien on le combat jusqu'à sa destruction, ou on finit par s'y intégrer et par devenir un de ses rouages. C'est ce qui s'est passé avec le Parti socialiste et avec le Parti communiste. C'est ce qui explique aussi leur effondrement. Et avec eux aussi, le recul des organisations ouvrières, du militantisme. Et même, c'est ce qui explique le discrédit qui a été jeté sur l'idéal socialiste. Alors, l'expérience de la gauche gouvernementale doit nous servir de leçon et elle doit nous conforter dans une politique communiste et révolutionnaire. Au lendemain de l'élection, quel que soit l'élu, nous nous retrouverons toujours confrontés au grand patronat qui décidera s'il ferme ou pas telle ou telle usine, qui relèguera les femmes dans les boulots les plus précaires et les plus mal payés. Les jeunes continueront d'être baladés de stage en contrat de qualification. Le grand patronat continuera de faire de nous des invalides et des handicapés du fait des cadences et des charges de travail toujours plus lourdes. Notre banquier décidera d'accepter ou pas le découvert ou le crédit dont on a un besoin vital, et cela, quel que soit le président élu. La guerre sociale ne s'arrêtera pas au lendemain de la présidentielle. Elle se poursuivra et elle s'aggravera du simple fait que nous nous enfonçons dans la crise. Ce que la bourgeoisie ne peut pas gagner dans l'élargissement de ses marchés, eh bien, elle l'obtient en aggravant l'exploitation. Et tant que le camp des travailleurs sera démobilisé, la bourgeoisie en profitera pour nous faire payer sa crise. Alors, il faut se préparer à la mobilisation. Aucun homme seul, qu'il soit le locataire de l'Élysée, de la Maison-Blanche ou à la tête de je ne sais quel gouvernement, ne peut incarner le rapport de force avec la bourgeoisie et se faire craindre d'elle. Seul le monde du travail mobilisé par millions et conscient de sa force peut le faire. Alors, le programme que je défends est un programme de lutte. Ma candidature est un appel au combat. Il n'y aura pas d'avancée significative pour le monde du travail et pour la société dans son ensemble sans s'attaquer aux financiers, au grand patronat, à la grande bourgeoisie. C'est une question de rapport de force, de grève, d'affrontements sociaux. C'est la conscience que notre sort ne dépend pas du prochain président de la République, mais de nos propres combats. Ma candidature est un appel à un vote de fierté ouvrière et de combativité. Et je veux dire à tous ceux qui ne supportent plus l'ordre social actuel et qui s'apprêtent peut-être à s'abstenir parce qu'ils n'ont aucune illusion dans ce cirque électoral, ne restez pas seuls avec votre colère, ne restez pas isolés, impuissants et invisibles politiquement. Rejoignez-nous dans le vote et dans le parti qui incarne une politique pour changer toute la société. La campagne est marquée par un climat réactionnaire, pour ne pas dire raciste, parce qu'au lieu d'avoir un candidat d'extrême droite, on en a deux. Avec Zemmour, qui espère récolter les fruits de ce que Le Pen a semé. Et pour ringardiser Le Pen, il en fait des tonnes. Le Pen s'en prend à l'islamisme, Zemmour s'en prend à l'islam. Le Pen flatte les policiers, Zemmour leur promet le droit de tuer sans craindre la justice. Le Pen veut renvoyer les étrangers qui restent un an sans emploi. Zemmour les renverrait au bout de 6 mois. Et il promet même d'expulser 2 millions d'étrangers. Une déportation de masse qui ferait pâlir d'envie Trump, Orban et Bolsonaro réunis. Pour parvenir au salon doré de l'Élysée, Le Pen, l'ancienne candidate anti-système, parie sur un processus de dédiabolisation et elle travaille à se rendre plus humaine. Zemmour a choisi la stratégie opposée. Il déverse sa bile raciste et organise toute sa campagne autour de son délire du grand remplacement. S'il pose en intellectuel, c'est en historien révisionniste qui explique que la colonisation a été positive, que le capitaine Dreyfus était peut-être coupable, que la Révolution française était un complot et que Vichy a protégé les Juifs français, dont 24 000 sont pourtant morts dans les camps nazis après avoir été livrés par la police de Pétain. Eh bien, je peux vous dire qu'en matière d'histoire, mes élèves lycéens d'Aubervilliers en savent plus que ce charlatan. Le Pen et Zemmour s'affrontent comme deux coqs dans un poulailler. Mais c'est la même démagogie de caniveau, les mêmes amalgames assimilant délinquance et terrorisme avec immigration. Le Pen et Zemmour, ce n'est pas Lucky Luke contre les Dalton, ce sont les Dupont et Dupont de l'extrême droite. Et comme la droite, l'extrême droite a toujours roulé pour le grand patronat. Elle a toujours ardemment défendu la propriété capitaliste et justifié l'exploitation. Si Marine Le Pen daigne agiter quelques mesures sociales, c'est uniquement pour essayer de capter une partie de l'électorat ouvrier écœuré et désorienté par la gauche. Mais Zemmour n'en prend même pas la peine. Au moment où les profits et les dividendes explosent, ce monsieur propose de baisser les impôts pour les plus riches. Quand les seniors sont mis au chômage ou en invalidité avant l'âge, il veut repousser la retraite à 64 ou 65 ans. En fait, Zemmour nous rappelle que tous les politiciens anti-immigrés sont toujours, d'abord et avant tout, anti-ouvriers. Alors, dans les classes populaires, ceux qui sont attirés par les sirènes nationalistes se trompent de camp. Qu'ils laissent ce vote aux aristocrates à particules, aux nostalgiques de Pétain et de l'Algérie française, aux généraux en retraite et en mal de coup d'État, aux crânes rasés et aux nasillons. Ce n'est pas le fait d'être considérés comme de bons Français qui permettra aux électeurs lepénistes de trouver un meilleur travail. Le fait d'avoir un prénom sonnant bien comme il faut aux oreilles de Zemmour ne les empêchera pas d'être exploités et méprisés. Et que les travailleurs immigrés aient moins de droits ne leur en rajoutera pas. Zemmour veut expulser les immigrés des logements sociaux. Mais ce n'est pas lui qui ira les construire ou les rénover demain. Il veut priver les étrangers du droit de vote, du droit. Il veut priver les étrangers du droit, ça c'est pas besoin, c'est déjà fait, les priver des droits de vote. Il veut priver les étrangers du droit de se faire soigner à l'hôpital, mais sans les médecins, les infirmières et les aides-soignants venus des quatre coins du monde, les hôpitaux publics fermeraient. L'unique antidote à la poussée de l'extrême droite est que les travailleurs renouent avec leurs valeurs politiques. La conscience de constituer le camp de ceux qui triment dur pour gagner leur vie, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau et leur croyance. Les xénophobes et les racistes mettent en avant la préférence nationale et les Français d'abord. Eh bien, soyons le plus nombreux possible à leur répondre. Oui, à la préférence de classe, les salaires d'abord, les emplois d'abord, les retraités, la jeunesse des classes populaires d'abord, le camp des travailleurs d'abord. Et dans cette campagne, marquée par le rejet des migrants, je suis particulièrement fière de dire « Bienvenue aux femmes et aux hommes forcés d'émigrer !» Oui, je suis l'une des rares candidates à considérer que les femmes et les hommes qui se massent à la frontière de l'Union européenne, ceux qui essayent de traverser la Manche, la Méditerranée ou les Balkans à leurs risques et périls, font ou feront partie intégrante de mon camp, le camp des travailleurs. Comme nous, ces femmes et ces hommes avaient un toit, une famille, une formation, un métier. Ils étaient cuisiniers, maçons, ingénieurs, médecins. Ils ont vu leur monde s'effondrer sous un déluge de bombes ou ont été chassés par la misère et ils ont été forcés de quitter leur pays. Alors je me place du point de vue de ces travailleuses et de ces travailleurs. Quels sont leurs besoins? Quels sont leurs intérêts? Eh bien, c'est de pouvoir circuler, c'est de pouvoir passer les frontières, c'est de s'installer là où ils ont choisi d'aller, soit parce qu'ils parlent la langue du pays, soit parce qu'ils trouveront du soutien et qu'ils pensent pouvoir y trouver du travail. La liberté de circulation et d'installation doit faire partie des droits que l'on doit arracher pour tous les travailleurs de cette planète. Les frontières, elles ne sont là que pour les plus pauvres, pour les travailleurs en réalité. Parce que quand on a un portefeuille bien garni, passer une frontière est une simple formalité administrative. D'ailleurs, jamais personne n'a traité un émir du Qatar ou un oligarque russe de migrants. Non, le mot est réservé aux travailleurs, aux plus pauvres, en réalité. Alors, il faut revendiquer la liberté de circulation et d'installation et se préparer à accueillir ces femmes et ces hommes comme des sœurs et des frères, parce que la plupart s'intégreront au monde du travail, à notre camp. Demain, ils travailleront à nos côtés, sur les lignes de découpe, dans les abattoirs, dans les usines ou sur les chantiers. Ils et elles travailleront dans les hôpitaux, dans les entreprises d'aide à domicile, dans les EHPAD. Ils seront manutentionnaires à Amazon. Ils seront nos sœurs et nos frères de travail, de souffrance. Et si nous savons nous adresser à eux, eh bien, ils seront nos sœurs et nos frères de combat. Et nul doute qu'avec leur expérience et le courage dont ils font preuve tous les jours, eh bien, ils seront des forces plus que précieuses au combat que nous avons à mener tous ensemble pour notre émancipation. Les candidats de tous les grands partis, du Parti communiste jusqu'au Rassemblement national, et même maintenant, il faut aller jusqu'à Zemmour, tous ces partis font un usage extraordinaire du mot « France ». les intérêts de la France, la grandeur de la France. Mais cela revient toujours à défendre les intérêts et la grandeur des Bernard Arnault, des Peugeot, des Michelin, des Drahi. La patrie que les classes dominantes voudraient nous voir vénérer ne nous promet qu'une vie de labeur de plus en plus dure. C'est ce qui avait amené Marx et Engels à écrire, en 1848, dans le manifeste du Parti communiste, « Les prolétaires n'ont pas de patrie ». Eh bien, cet internationalisme-là est plus que jamais le nôtre. D'autant plus que raisonner à l'échelle d'un seul pays est complètement dépassé. La pandémie, mais aussi la crise climatique ou la crise économique, montrent que nous sommes interdépendants à l'échelle de la planète. Aucun pays ne peut s'en sortir seul. Il n'y a plus de solution à l'échelle nationale. Il faut aller vers une coopération fraternelle de tous les peuples. Alors bien sûr, tout cela c'est impossible aujourd'hui, avec la bourgeoisie au pouvoir, parce que la bourgeoisie des pays riches, dont la bourgeoisie française, domine et exploite les pays pauvres, comme elle domine et exploite les travailleurs ici. C'est la domination des puissances impérialistes sur les pays pauvres, et c'est leur pillage qui conduit au sous-développement et à des régimes aussi corrompus que dictatoriaux. La situation actuelle au Mali, c'est le résultat de la politique de l'impérialisme français. C'est la concurrence. C'est la concurrence et les rivalités entre impérialistes qui créent les tensions internationales, les menaces guerrières et terroristes que l'on connaît et que les populations des pays dominés payent plus que tout. Et là encore, la bourgeoisie nous mène dans l'impasse et l'avenir est incarné par le camp des travailleurs parce que les travailleurs, eux, ils n'exploitent et ils n'oppriment personne. Et s'ils prennent le pouvoir, eh bien, eux, ils pourront instaurer des rapports égalitaires et fraternels avec les travailleurs des autres pays et trouver avec eux des solutions aux défis qui se posent à tous. Et là, oui, le mot « humanité » prendrait enfin toute sa signification. Après un tel discours, les journalistes me demandent pourquoi je me présente et si vraiment je veux être présidente de la République. Eh bien, en effet, je ne vise pas la présidence de la République, j'aspire à bien plus que ça, parce qu'il faut changer toute la société. Il faut renverser le capitalisme et cela ne se fera pas du haut de la présidence de la République. Cela se fera par en bas. Quand le monde du travail et la jeunesse révoltée relèveront la tête et s'attaqueront eux-mêmes à la dictature du grand capital. Parce que c'est un gâchis sans nom, un gâchis humain et un gâchis pour la planète. Tant que nous considérerons les multinationales comme la chasse gardée des capitalistes, nous ne serons maîtres de rien. Nous pourrons crier à l'urgence climatique, discourir sur le meilleur type d'énergie à utiliser, sur les procédés les plus économiques en ressources naturelles ou encore sur le recyclage. Mais ce sont les grands actionnaires qui décideront. Et en fonction de quoi? En fonction des perspectives de profit et de subventions publiques qu'ils pourront espérer arracher, mais pas en fonction des besoins vitaux des populations, ni en fonction de ce qui est urgent et bénéfique pour la planète. Seuls les travailleurs au pouvoir peuvent prendre le problème de la crise climatique à bras-le-corps, car ils organiseraient une économie collective selon un plan élaboré démocratiquement pour produire ni trop ni trop peu. Un plan pour répondre aux besoins de court terme, mais aussi pour anticiper et se projeter sur le plus long terme. Le secteur bancaire collectivisé permettrait d'orienter les capitaux là où les besoins vitaux sont à satisfaire. On ne construirait plus d'avions Rafale ou de missiles nucléaires et on pourrait mettre les compétences des salariés de Dassault, de Thalès ou de Safran pour plancher sur les transports collectifs plus propres, moins énergivores et mieux organisés. Il serait possible de fusionner dans un même ensemble les Total, Exxon, Engie, EDF, la vingtaine de multinationales qui contrôlent les moyens de production énergétique dans le monde, pour les coordonner et faire en sorte pour les coordonner donc dans leur activité et aussi dans leur plan d'investissement. On pourrait mettre en commun les compétences de leurs ingénieurs et le savoir-faire de leurs ouvriers et techniciens pour produire au moindre coût environnemental et humain. Les capitalistes dévoient les immenses possibilités scientifiques et techniques. Avec les travailleurs au pouvoir, les satellites utilisés aujourd'hui pour spéculer sur le cours des matières agricoles pourraient servir à choisir les cultures les plus adaptées en fonction du climat, de la nature des terres et de la géographie. L'exploration spatiale que les capitalistes ont ravalée au rang d'expéditions touristiques pour riches servirait à faire avancer la science en expropriant les grands moyens de production, en les collectivisant. On pourrait éradiquer la misère, la malnutrition, le manque d'eau potable. On pourrait enrayer le réchauffement climatique et cesser de surexploiter les ressources naturelles. Les GAFAM, utilisés aujourd'hui pour enrichir quelques milliardaires et pour nous fliquer, pourraient se transformer en fantastiques outils d'organisation, de coordination, de recensement et de démocratie. Le progrès n'est certainement pas de détruire les multinationales et les liens économiques, sociaux et humains tissés à l'échelle mondiale. Ce serait d'en faire des biens communs à l'humanité tout entière. Mettre en commun les moyens de production et produire consciemment ce qui a été décidé démocratiquement, c'est cela, le communisme. Nous n'en avons jamais été aussi proches, parce que la socialisation de la production est déjà réalisée en grande partie par le capitalisme lui-même, par ce processus incessant de concentration qui unit les travailleurs du monde entier dans un seul et même système productif. Alors, oui, le capitalisme a ouvert la voie à une société collective. Alors, vive le communisme ! S'il est impossible d'imaginer dans ses moindres détails la société communiste, il est certain qu'en plus de transformer l'organisation économique, elle transformerait aussi les rapports humains et elle changerait l'homme. Dans une société débarrassée de l'exploitation, des classes sociales et de toute cette hiérarchie qui condamne l'écrasante majorité à la soumission, le travail n'aurait plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Plus personne ne serait assigné à vie aux travaux ingrats et monotones. Ceux-ci deviendraient des tâches assumées collectivement. Toutes et tous pourraient participer aux choix économiques et sociaux ainsi qu'à leur mise en œuvre. Et selon leurs goûts, leurs curiosités, leurs compétences, tout le monde pourrait étudier et apprendre tout au long de sa vie. Les préjugés racistes, xénophobes, nationalistes, comme les comportements individualistes, sexistes, misogynes, reculeraient. Oui, ils reculeraient parce qu'ils ne seraient plus alimentés par les rapports de domination et d'oppression qui vont de pair avec l'exploitation. Les comportements égoïstes, souvent violents aussi, qui naissent des frustrations, des humiliations, pourraient disparaître. Et on ne se définira plus par le pays dans lequel on est né, mais on aura conscience de faire partie d'une même humanité. Quel progrès serait accompli si 7 milliards d'êtres humains pouvaient accéder à un niveau de vie convenable et laisser s'exprimer leur intelligence, leur créativité ? Et quelles richesses humaines découvrirait-on si nous pouvions tous consacrer le temps voulu à pratiquer les arts, faire du sport, parcourir le monde ? Oui, en luttant pour notre émancipation, nous nous transformerons nous-mêmes. C'est aussi ce que je veux dire dans cette campagne. Et en m'adressant spécialement aux jeunes, cet avenir, il est possible si vous vous autorisez à refaire le monde dans votre tête et si vous vous attelez à construire l'outil indispensable pour faire naître cette nouvelle société, le Parti révolutionnaire. Ce ne sont ni les idées, ni les perspectives qui nous manquent. C'est un parti pour les incarner et les faire vivre dans les classes populaires. Le sentiment que tous les politiciens sont pourris parce qu'une fois au pouvoir, ils retournent leur veste, a conduit les classes populaires à rejeter la politique, le militantisme et tous les partis, que ce soit des partis de politiciens ou des partis de militants, comme Lutte ouvrière. Eh bien, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Que les partis bourgeois soient à l'image du système qu'ils défendent, c'est-à-dire des ramassis d'arrivistes, n'a rien d'étonnant. La seule conclusion à en tirer, c'est que les travailleurs qui ont pour perspective de changer la société doivent s'organiser dans leur propre parti. Pas un parti comme les autres partis. Pas un parti de politiciens professionnels, mais un parti de salariés, de chômeurs, de retraités. Un parti composé et dirigé par des travailleuses et des travailleurs, capables de mettre en avant au jour le jour les intérêts des travailleurs contre la politique de la bourgeoisie. Un parti ne vivant pas d'élections et de place dans les institutions bourgeoises, mais un parti construit pour encourager les exploités à se défendre. Un parti capable à la fois de se battre pour les augmentations de salaire, tout en défendant la perspective de l'abolition du salariat. Un parti capable de se battre pour des améliorations des conditions de travail, tout en militant pour la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme. Un parti construit donc pour mener tous les combats jusqu'à celui pour la prise du pouvoir. Nous sommes tellement habitués à ce que les riches commandent et monopolisent le droit de diriger que nous ne réalisons pas que nous pouvons le faire nous-mêmes. Mais les décisions, ils peuvent les prendre. Si nous ne sommes pas là pour faire le travail et pour transformer leurs décisions en réalité, il ne se passe rien. C'est nous qui mettons en musique tout ce qu'ils décident du haut de leur conseil d'administration. Et c'est à nous que l'on demande de faire l'impossible. Alors il faut réaliser que l'utilité sociale, c'est nous qui l'incarnons. Les actionnaires et le grand patronat n'ont aucun rôle dans la production. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ne savent même pas où ils ont investi leurs capitaux. Leur utilité sociale est nulle. Autrement dit, c'est la bourgeoisie qui dépend de nous pour tout, y compris pour se faire à manger et garder ses enfants. Nous lui servons à tout, elle ne nous sert à rien. Eh bien, il faut l'avoir en tête, parce que je vous garantis que les bons petits soldats que nous sommes finiront un jour par se révolter. Et j'insiste là-dessus parce que tout cela est d'abord une question de conscience. Au travail, nous mettons beaucoup d'énergie, d'intelligence, de compétences et de dévouement. C'est vrai aussi quand on élève des enfants ou quand l'on s'occupe des anciens. Mais imaginez que l'on mette ne serait-ce que le dixième de l'énergie que l'on donne à son patron pour fabriquer ses profits, à discuter entre nous, à nous organiser, à nous battre. Eh bien, c'est là que bien des choses pourraient avancer pour nous. Alors soyons conscients du pouvoir que nous avons de faire les choses nous-mêmes. Soyons conscients du pouvoir que nous avons de nous gouverner nous-mêmes. Bien sûr, ce pouvoir, notre pouvoir, reste à construire. C'est un pouvoir qui ne peut être que collectif. Autrement dit, notre pouvoir, c'est notre organisation. Et ça passe d'abord par notre parti. Et cette campagne, eh bien, elle doit lui permettre de se renforcer. Le combat politique que nous menons à l'occasion de cette campagne présidentielle montre à tous les travailleurs qu'il y a un camp auquel ils peuvent se rattacher, un parti petit, certes, mais sur lequel ils peuvent compter tous les jours. Parce que contrairement à ce qu'expliquent certains journalistes en disant que nous surgissons tous les 5 ans à chaque élection présidentielle, nous sommes sur le terrain, dans les entreprises, dans les quartiers populaires, tous les jours. Et quel que soit le poids de ma candidature dans les urnes, Eh bien, la politique que nous portons dans cette campagne compte pour les travailleurs qui cherchent le moyen de se défendre. Elle encourage tous ceux qui essayent de s'organiser, et c'est cela le plus important. Bien sûr, nous sommes à contre-courant, et nous le resterons tant qu'il n'y aura pas une remontée des luttes collectives. C'est d'ailleurs l'absence de ces luttes qui permet aux préjugés, aux diversions et aux démagogues de faire leur beurre en montrant du doigt des boucs émissaires. Mais même à contre-courant, nous pouvons avancer. Nous allons porter les intérêts du monde du travail et nous trouverons de l'écho dans les entreprises et dans les quartiers populaires. Alors il faut mettre toutes nos forces dans cette bataille pour nous faire entendre. Aidez-nous dans cette campagne. La possibilité de discuter, de faire réfléchir et de convaincre en prenant le temps qu'il faut, c'est vous qui l'avez. Moi, sur les plateaux, dans les courtes interviews que je peux faire, je n'en ai pas la possibilité. Mais vous, vous pouvez le faire en discutant avec votre famille, avec vos camarades de travail, avec vos voisins, vos amis. Pour que cette campagne soit réussie, il faut que ce soit la campagne de chacun d'entre nous. Il faut que ce soit une campagne militante. Alors, essayons de regrouper autour de ma candidature tous ceux qui sont révoltés, tous ceux qui ne se résignent pas à un ordre social aussi inégalitaire qu'injuste et stupide. Aidez-nous à construire ce parti qui nous manque tant. Nous sommes minoritaires, mais dès qu'une épidémie de grève se déclenchera, ce sont ces idées-là qui aideront les travailleurs à aller le plus loin possible dans le combat. Et ce combat, il peut et il doit aller jusqu'au renversement du capitalisme et son cortège d'arriération et de barbarie. Il doit aller jusqu'à changer le monde.
Camarades, ne partez pas tout de suite. Alors, merci d'avoir participé à ce meeting réussi. Et avant de chanter l'international et de sortir, je vais faire quelques annonces. Donc, pour faire entendre et exister les idées que viennent de développer nos camarades, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Vous savez qu'une campagne électorale nécessite de coller des affiches, de distribuer des tracts. Mais surtout, au fond, c'est de discuter avec ses voisins, avec ses collègues, avec ses amis, pour les convaincre de voter pour leur camp. Donc si certains dans la salle ne sont pas encore en contact avec des camarades de lutte ouvrière, que ce soit dans leur ville ou dans leurs entreprises, ils peuvent laisser leurs coordonnées situées à la sortie de la salle, à gauche et à droite, et sinon à la table de presse en haut des escaliers. Sur ces tables, vous trouverez des affiches, des tracts, des autocollants, des dépliants sous forme de 4 pages et des badges. Vous pouvez en prendre plusieurs exemplaires pour les coller et les distribuer autour de vous. Il y a aussi sur cette table de presse des exemplaires du journal Lutte ouvrière. Donc n'hésitez pas à l'acheter et le faire connaître autour de vous. C'est un journal qui défend nos idées communistes et révolutionnaires et qui parle de la vie quotidienne des travailleurs grâce aux articles racontant ce qui se passe dans les entreprises. Je rappelle aussi que dans quelques minutes, Nathalie va dédicacer son livre « Communiste, révolutionnaire, internationaliste ». Donc c'est un livre qui revient sur toutes nos positions, nos perspectives communistes et révolutionnaires. Et ça sera au niveau du bar en sortant de la salle. Et je le redis, surtout n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, à garder contact. Alors comme vous le savez, une campagne électorale, ça nécessite aussi de l'argent. C'est pourquoi vous trouverez en sortant des camarades tenant des drapeaux rouges et vous appelant à soutenir financièrement notre campagne. Donc je suis convaincue que vous ne serez pas sourds à leur appel. Donc dès maintenant, je tiens aussi à vous informer que nous ferons un meeting pour regrouper les camarades de tout le pays au Zénith le dimanche 3 avril. Et aussi, pour vous prévenir que notre fête annuelle de lutte ouvrière aura lieu après dans le Val d'Oise. Mais attention, c'est à l'Ascension, soit le vendredi 27 mai, samedi 28 et dimanche 29 mai. Alors après toutes ces dates, et d'ici là, faites voter et votez pour Nathalie Arthaud, faire entendre le camp des travailleurs. Et avant de nous quitter, donc dans la tradition du mouvement ouvrier, nous allons chanter l'Internationale.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout.